quoi, Alexis?
Ouais, sauf Claude. Washia.
Wadja. Alors, cette semaine, à Koué Bonjour, on reçoit Karine Gentelet, professeure agréée du département des sciences sociales et directrice scientifique en collaboration avec la société civile OVIA et titulaire de 2020-2002 d'une chaire dans l'intelligence artificielle et justice sociale. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Widia Larivière, cofondatrice de Mikana, impliquée aussi activiste avec Idle No More, pour nous parler du livre 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill.
Un bien beau menu.
Oui, toujours un plaisir de s'entretenir avec Widia. Madame Gentelet, ça va être une première pour moi. Alors, pour parler avec Mme Gentelet, on va parler spécifiquement de décolonisation informationnelle et souveraineté des données numériques des premiers peuples. Mme Gentelet, bonjour.
Bonjour.
Alors,
Bonjour.
Alors, comme je le disais, donc vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de décolonisation informationnelle et souveraineté des données numériques des premiers peuples. La décolonisation informationnelle, c'est quoi en version un peu plus simplifiée? Puis lorsqu'on parle de la souveraineté des données numériques, de quelles données numériques est-ce qu'on parle spécifiquement?
OK. Donc, sur la souveraineté informationnelle, en fait, c'est quelque chose qui a été une préoccupation depuis de nombreuses années de plusieurs premiers peuples au Canada, mais ailleurs dans le monde. Autrement dit, c'est le contrôle des informations qui les concernent. Contrôle, la possession, le stockage et la décision de rendre certaines informations publiques ou de les utiliser pour un programme ou pour une autre fonction. Donc c'est ça la souveraineté informationnelle. Les données numériques, en fait, ce sont des données qui sont celles qui sont produites dans l'espace numérique, donc qui sont souvent chiffrées et qui sont, si vous voulez, un peu dématérialisées. Donc, ce sont les données qu'on produit quand on va sur Internet, quand on interagit soit avec une application ou quand on interagit avec une plateforme, par exemple, ou quand on remplit un formulaire. C'est à peu près ça, ces données-là. C'est les données statistiques deviennent des données numériques, par exemple. Ce sont des chiffres. Donc, en fait, c'est une information qui devient un chiffre.
Et donc, les sources pour ces informations-là, ces chiffres-là, ces statistiques-là, c'est les sources, ça va être, comme vous le dites, là, ça va être en allant sur Internet, je présume peut-être les télés intelligentes aussi, et c'est vraiment, ça peut être sur nos habitudes de consommation jusqu'à de l'information plus sensible et confidentielle, c'est ça?
Oui, tout à fait, mais c'est aussi les interactions que on peut avoir comme citoyen ou comme personne avec des institutions publiques. C'est des informations qu'on donne, par exemple, soit à Santé Canada, puis par exemple, on sait qu'au Québec, à un moment donné, on parlait d'avoir des dossiers santé numérique. C'est de l'information qu'on a sur nos profils de l'ARC. C'est un peu tout ça, si vous voulez. C'est à la fois des données qu'on produit en allant sur des sites, mais aussi des données qu'on produit comme citoyens et qui sont utilisées notamment par les gouvernements pour prendre des décisions sur où investir. Par exemple, c'est sur des données qu'on s'appuie pour décider le nombre de CPE qu'on va ouvrir, pour si on va mettre plus d'autobus, par exemple, un soir entre 4 à 6 heures, par exemple. C'est ce genre de choses. C'est assez vaste, en fait.
Oui. On le sait, en recherche universitaire, les données de recherche, c'est souvent un enjeu. Il y a des protocoles qui sont développés chez Karine pour t'avoir vu travailler. C'est quelque chose pour lesquels t'es très sensible. Comment, mettons, en recherche universitaire, on va commencer par ça pour expliquer à nos auditeurs comment on fait pour respecter la souveraineté des peuples autochtones, puis le fait que quand on va sur les communautés autochtones, il faut redonner à la communauté, à quelque part, accès à ces données-là, puis qu'il y ait un échange, une réciprocité. Puis ensuite, on pourra parler des data, mais en recherche universitaire, comment on le fait en ce moment?
Alors, suite justement aux pressions de nombreuses organisations autochtones de dire, écoutez, la recherche ne peut plus se faire contre nous, elle doit se faire avec nous. Elle a été mise en place, notamment un protocole de recherche avec les Premières Nations qui a été validé par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc qu'on utilise au Québec, mais aussi les agences subventionnaires de recherche. Alors il y a au fédéral et au provincial utilisent des lignes directrices justement pour inclure inciter une collaboration avec les premiers peuples qui collaborent à ces recherches. Et donc, ce qu'on utilise notamment en recherche, ce fameux les principes PCAP qui sont propriété, contrôle, accès et possession. Et donc, quand on entre en collaboration avec une communauté, par exemple, ou un groupe qui participe à la recherche, ça veut dire qu'on s'assure que non seulement le projet réponde à leurs besoins, mais que toutes les données qui seront produites respectent ces principes PCAP. Donc qu'ils en aient la propriété, qu'ils en aient le contrôle, qu'ils en aient l'accès et qu'ils en aient la possession. Et ce, pour éviter, par exemple, que, on l'a vu dans d'autres recherches il y a plusieurs années, le chercheur ou la chercheuse reparte avec les données qui peuvent être, par exemple, des données biomédicales et que la communauté n'en entende plus parler et qu'elle ne puisse plus utiliser ces données-là parce qu'elles appartiennent aux chercheurs. Donc elles sont non seulement pas capables de les retracer, mais pas d'y avoir accès. Et des fois, ce sont des données, par exemple, qui peuvent aider le conseil de bande ou qui peuvent aider une institution en santé qui est sur communauté à prendre des décisions. Donc, c'est la raison pour laquelle, en recherche, en tout cas en sciences sociales, et c'est en train de s'étendre dans d'autres types de disciplines, ce sont ce genre de protocoles qu'on utilise.
Est-ce que c'est un enjeu aussi pour la recherche dans les sciences de la nature? Disons, on l'a vu avec certains exemples où on a des chercheurs de compagnies biopharmaceutiques qui viennent dans les communautés chercher des connaissances, repartent avec elles, puis vont les breveter après.
Ben, c'est un enjeu, effectivement. Je sais que j'ai beaucoup de collègues, notamment à la Commission de la Santé et des Services sociaux du Québec et du Labrador, des Premières Nations du Québec et du Labrador, pardon, qui travaillent là-dessus. Oui, c'est un enjeu parce que c'est aussi un pillage des savoirs et des connaissances traditionnelles. Donc, oui, il y a des protocoles qui sont mis en place exactement au même niveau que ce qu'on fait en sciences sociales. Les agences subventionnaires aussi qui utilisent... qui financent ces projets-là, sensibilisent vraiment énormément les chercheurs. En fait, elles font plus que les sensibiliser, elles leur demandent de se plier à ces protocoles-là. Donc oui, il y a quelque chose qui se fait, c'est pas parfait, je pense, sachant par exemple que l'industrie privée n'est souvent pas inclue dans ce genre de protocole qui s'adresse au financement public. Mais il y a énormément d'initiatives et je sais que mes collègues qui travaillent, mes collègues autochtones sont vraiment extrêmement mobilisés pour protéger le plus possible les savoirs et les connaissances, les systèmes de connaissances.
Les scientifiques, les chercheurs qui veulent aller justement dans les communautés pour faire de la recherche ou justement dans les cas que Alexis vient de mentionner, est-ce qu'ils sont réceptifs à intégrer ces protocoles-là? Est-ce qu'ils comprennent bien ou c'est plutôt, ils aimeraient plutôt continuer à s'accaparer ces connaissances-là, ces données-là?
Maintenant, en 2024, c'est extrêmement bien utilisé. Et de toute façon, c'est vu aussi, je pense qu'il y aura toujours des réfractaires, on est d'accord, mais c'est rentré vraiment dans les pratiques, ne serait-ce parce que les agences subventionnaires l'exigent. Donc, quand on remplit des demandes de subvention et qu'on identifie que le sujet va toucher les peuples autochtones, on est obligé de faire attention et de prouver que justement ce sera fait en collaboration. Donc les chercheurs le font et ça amène aussi une recherche de qualité parce que ça veut dire qu'on a accès à des informations auxquelles en tant que chercheurs non autochtones on n'aurait pas accès quand on inclut la communauté. Ça amène aussi à des angles de recherche qui sont beaucoup plus intéressants parce que ben, par exemple moi Karine, vous l'entendez à mon accent, je suis pas née ici. Et donc, il y a des choses que je vais voir, que je vais concevoir d'une certaine manière, mais qui ne seront pas représentatives d'une réalité ou même d'un besoin. Donc, d'inclure des personnes qui viennent de ce territoire-là, qui ont une connaissance approfondie, qui ont une expertise approfondie, ça permet bien évidemment d'avoir une recherche qui est beaucoup plus, on va dire, socialement pertinente et qui est encore plus pertinente pour le groupe va être impacté par cette recherche ou qui va pour lequel cette recherche va répondre à un besoin. Donc, il y a une pertinence sociale et en anglais le mot c'est accuracy, mais il y a une
bien sûr une précision.
Merci, une précision beaucoup plus forte quand la communauté est impliquée. Mais ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que avec l'omniprésence de l'intelligence artificielle et surtout d'une grande dématérialisation des interactions. Et puis la pandémie en a été le reflet le plus flagrant, c'est-à-dire on ne pouvait plus sortir, donc on était obligé forcément d'aller sur l'ordinateur, d'interagir comme ça. C'est qu'on a tout de suite compris l'importance de toutes ces données-là qui n'étaient plus, si vous voulez, les protocoles notamment vont sur des données qui sont tangibles, qu'on voit, mais tout ce qui est un peu dématériel, autrement dit, dans l'Internet, ben là, c'est ou justement chiffré, qui disparaît un peu, qui est moins visible, on va dire. Il y avait des enjeux là-dessus en termes de souveraineté. Et ce qui s'est passé, notamment auprès de nombreuses organisations, puis on le voit vraiment à l'international, où des groupes autochtones se sont dit, mais on a tellement lutté pendant ces 30 dernières années pour justement affirmer notre souveraineté informationnelle, pour maîtriser non seulement l'image qu'on renvoyait de nous, qui a été, durant la colonisation, une image qui était très négative, donc on avait réussi à renverser un peu cette vapeur-là, à contrôler un peu. C'est comme si on a l'impression qu'avec le déploiement massif d'outils d'intelligence artificielle et d'utilisation de ces big data, donc les données qui concernent les peuples autochtones soient noyés dans des milliards et des milliards de données, c'est que tout d'un coup, on dit on perd le contrôle sur cette information-là, et tout ce que on avait mis en place pour protéger notre souveraineté vient se dissoudre. Et c'est notamment pour ça que certains groupes autochtones parlent de recolonisation par le numérique. Et donc tous les efforts de contrôle et de prise de pouvoir, notamment par la décision, c'est comme s'il se trouvait effacé parce que les données, toutes les données qui sont collectées, puis on est d'accord qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de données, c'est pour ça qu'on parle des données massives, qu'on ne peut pas tout contrôler, mais au moins certaines données importantes, ce sera
à chaque fois qu'on va sur un site Internet, puis on dit « autorisez-vous les coquilles ou les choses comme ça à agir », c'est qu'on autorise en fait qu'on prenne des données sur nous.
Comme l'utilisation de notre cellulaire aussi, nos télévisions intelligentes, on envoie de l'information partout. Les communautés autochtones, certainement, lorsqu'il y a des protocoles en place comme ça, ça doit les inciter, ils doivent être beaucoup plus motivés à participer à ces recherches-là. Et si des chercheurs ou un programme de recherche ou de collecte de données ne se dotent pas d'un protocole, justement, une certaine entente où est-ce que les Premières Nations concernées puissent avoir accès aux données récoltées et aux statistiques, s'il y a un refus d'avoir un tel protocole, les Premières Nations peuvent refuser aussi d'accueillir cette recherche-là dans leur territoire et dans leur communauté.
Justement, c'est la raison pour laquelle ces protocoles sont là, c'est la possibilité de, en fait, c'est pas la possibilité, c'est que les gens prennent conscience qu'ils peuvent dire non, simplement. Et des fois, ils n'osent pas, mais en fait, c'est ça, c'est de dire non. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sensibilisé énormément les chercheurs, c'est que soit ils prenaient le protocole, soit ils ne pouvaient plus faire leurs recherches parce que la communauté disait non. Au bout d'un moment, si on ne veut plus de recherche, on ne peut plus faire de recherche parce que les gens disent non. On n'a plus lieu d'être chercheur, donc c'était un autre incitatif, mais en fait, c'est à ça que ça sert aussi, c'est de dire aux gens, vous pouvez dire non, et non seulement vous pouvez dire non, mais vous pouvez dicter vos conditions. Et l'idée, c'est d'avoir une recherche qui bénéficie à toutes les parties.
Karine Gentelet, professeure agréée au département des sciences sociales, directrice scientifique Sierra, Université du Québec à Outaouais, directrice scientifique, collaboration avec la société civile OVIA. On va prendre une petite pause. On revient après la pause musicale.
Alors, en musique, on va aller entendre la chanson de Scott George et les membres de la nation Osage qui ont chanté Wazaze, et qui est A Song for My People, une chanson pour les miens. Et c'était la chanson qu'on a eu la chance d'entendre lors de la cérémonie des Oscars qui a eu lieu le 10 mars dernier. Ah, juste à l'entendre, j'ai encore des frissons. J'ai été émue même en voyant ça. On pourra en reparler plus en fin d'émission. Donc, c'était Scott George et les membres de la nation Osage avec Wazaze, A Song for My People.
Miigwech, Sophie Claude. De retour avec notre invitée, donc Karine Gentelet. On parle donc, on a parlé de colonialisme par les dadas et on a maintenant des stratégies de décolonisation informationnelle. Quel genre de stratégie on pourrait avoir? Est-ce qu'on parle de témoignages par les données ou de l'éducation populaire? Comment on fait ça de la décolonisation des datas?
Ah, c'est un long processus. Et en fait, c'est le même type de processus de renforcement des capacités que la décolonisation informationnelle avant, hors contexte du numérique, par exemple.
OK.
Donc, c'est à la fois de l'éducation sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parce qu'en fait, déjà, juste consentir à donner ces données, à accepter, par exemple, on est sur un site qui nous dit, OK, est-ce qu'on consent? Je pense qu'on ne comprend pas tous exactement à quel point est-ce qu'on consent. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite de ça, donc comprendre,
Oui,
je pense
puis
qu'il y a les... Oui?
c'est quoi l'alternative au non-consentement? C'est pas avoir accès souvent au site.
Oui, c'est ça. Puis c'est correct. Moi, en fait, plein de fois, quand on me dit non, ben, je dis, bah, d'accord, je vais sur un autre site. Il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire que, mais il faut être en position de dire, je peux le faire et c'est correct. Un autre élément qui est, je pense, de se permettre de poser des questions. Parce que c'est un autre enjeu avec lequel je travaille beaucoup en intelligence artificielle sur les impacts sociétaux. Ça touche aussi le numérique, mais c'est que les gens se disent, oh, mais moi, j'y connais rien, donc je me permets pas de poser de questions. Non. En fait, tout ce qui nous concerne, on doit être en mesure de se poser des questions. Donc, la décolonisation, des enjeux du numérique, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ça va me concerner. Si j'ai pas l'impression que ça me concerne maintenant, c'est peut-être que je suis pas au courant, mais peut-être que ça me concerne pas, mais ça va me concerner à un moment donné. Donc, c'est important que je me renseigne. Et donc, c'est par assister à des formations. Il y a des organisations qui donnent des formations sur qu'est-ce que l'IA, etc. Ça, c'est la première des choses. Et je pense aussi que, et c'est ce qui est en train d'être fait par notamment la Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, c'est d'avoir des lignes directrices pour justement outiller les communautés qu'est-ce qu'on fait avec les données, quand on héberge des données par exemple sur le cloud, est-ce que ces données-là, est-ce qu'on peut mettre tout type de données? Est-ce qu'il y a des données, on sait par exemple, il y a des données en termes de revendications territoriales ou en termes de ressources fauniques ou de sites sacrés par exemple, est-ce qu'on peut les mettre là? Il y a toute une réflexion à avoir pour déconstruire un peu qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est le cloud, qu'est-ce que tout ce vocabulaire-là, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Par
Et en
exemple,
fait,
pour illustrer qu'est-ce que vous dites, t'sais, souvent, nous autres, on va faire affaire individuellement, des fois, avec des entreprises comme Google ou Amazon ou des choses comme ça. Puis, ces entreprises-là offrent aussi souvent des services à des organisations comme les peuples autochtones ou des entreprises. Juste comme, par exemple, avec le Patriot Act aux États-Unis, nous, les avocats, on nous recommande, puis même on nous dit, allez pas utiliser des serveurs américains pour les
exactement.
données qui sont sensibles. Est-ce que c'est un peu la même chose,
C'est
qu'on
exactement
pourrait
ça.
avoir comme réflexion dans les Premières Nations?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on met et où on le met? Un peu comme quand on a un rapport confidentiel, est-ce qu'on le laisse traîner sur la table dans un endroit de passage ou est-ce qu'on le met dans un placard qui est serré à clé et qui a la clé? C'est exactement ça. Et comment est-ce que l'information pour retrouver ce rapport-là, comment est-ce qu'il est partagé? C'est exactement ça. Donc en fait, toute la réflexion qui se faisait sur les données sensibles, indépendamment qu'elles soient numériques, hein, quand je parle d'un rapport, des choses comme ça, on doit l'avoir aussi pour tout ce qui est le contexte numérique et pour les big data, ça c'est autre chose parce qu'il y a plus une histoire de contrôle et de participer à la prise de décision, mais sur les données numériques, c'est vraiment un enjeu qu'on doit avoir et qui est amorcé. Je sais que la réflexion est amorcée sur comment est-ce qu'on doit faire. Mais ce changement-là, en fait, ça vient de ce qu'on appelle en sociologie la dématérialisation. Parce que quand on n'a pas quelque chose sous les yeux, on en oublie des fois l'existence. Et on peut en oublier l'important dans nos vies quotidiennes. Et ce qu'on voit, c'est que les données, actuellement, c'est de l'or. Parce que ça permet d'informer les gouvernements sur qui on est, ça permet d'informer l'entreprise privée, ça a bon et à mauvais escient, je veux dire, c'est dans les deux sens. Mais ça veut dire qu'il y a un enjeu où il faut réfléchir justement sur ces données. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on met dessus ou pas? Qu'est-ce qu'on partage? Et c'est la même chose. Et par exemple, on l'a vu avec l'exemple que je cite tout le temps, mais avec Wade versus Roe aux États-Unis, où par exemple, les données qui étaient... Parce que c'est un autre enjeu dont on ne parle pas, c'est l'incidence sur les droits fondamentaux et la liberté civile. Mmh. Mais par exemple, les données qu'ont partagées les femmes, par exemple, qui ont des applications pour suivre leur menstruation, il y a quand le jugement est sorti aux États-Unis, il y a des gouverneurs qui étaient contre l'avortement qui disaient « Nous, on va demander à un juge de nous autoriser à avoir toutes les données de ces femmes qui sont menstruées et on va les croiser avec leurs données de géolocalisation. » Pour savoir exactement si ces femmes, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu leurs règles, et si elles se trouvent dans une zone où il y a une clinique d'avortement. Et on va les poursuivre.
Ouf, ça va loin tout non. ça. Ça me fait peur, là. Ça ne me donne pas des bons frissons, ça, là.
Ben, en fait, ça fait longtemps déjà que c'est un peu comme ça que ça va loin. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut être conscient de ça. Et maintenant, on ne peut plus se passer de la technologie. Je veux dire, le téléphone, la géolocalisation, ça fait partie... d'éléments qui sont, très importants dans nos vies.
Et individuellement, on devient dépendant aussi. Moi, je suis dépendante de mon cellulaire, je l'avoue franchement. Là.
Ben oui, puis on ne peut plus, moi aussi, je ne peux plus m'en passer pour plein de choses. Puis ça facilite la vie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des effets positifs, mais il faut aussi parler des effets négatifs. Et donc, trouver des outils pour que les gens aient conscience de ça. Et conscience que ben, y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on aurait peut-être se méfier. Et c'est ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut aller pour répondre à la question d'Alexis sur notamment comment est-ce qu'on fait pour décoloniser. C'est déconstruire et apprendre, en fait. C'est éduquer.
Pour ce qui est des premiers peuples en tant que tels, selon votre expérience, selon ce que vous voyez dans le cadre de votre travail, ils ont une capacité active à utiliser les technologies. Mais pour ce qui est de la gestion des données numériques d'une façon décolonisée, est-ce qu'il y a une capacité ou c'est plutôt une capacité à bâtir pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes ces données-là?
Je pense que c'est un peu tout. La capacité, elle est définitivement là parce que toute la réflexion qu'il y a eu, notamment sur l'éthique de la recherche, la collaboration en recherche, qui était un processus aussi de décolonisation de la recherche, a déjà été menée. Donc, il y a eu vraiment une très grande expertise et très profonde dans les communautés, justement, sur l'inclusion. Mmh. Et donc, maintenant, il faut juste la transposer à l'inclusion en contexte numérique et en contexte d'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est le même processus aussi pour d'autres sociétés et d'autres groupes. Et donc, ça va venir, mais c'est là. Et un autre élément qui est vraiment très intéressant, c'est que, justement, le fait que beaucoup, par exemple, de groupes soient éloignés, par exemple, des centres, c'est que la réflexion sur l'importance de la technologie dans la vie quotidienne, elle s'est faite depuis beaucoup plus longtemps que des personnes qui sont en vie. Et la raison pour laquelle je fais cette réflexion-là, c'est que quand il y a eu une recherche avec des juges sur la vidéoconférence en salle d'audience, en contexte avec des premiers peuples. Et quand la pandémie est arrivée, je dis au juge, bon ben voilà, en Zoom, il dit, ah ben ça fait des années qu'on fait ça, on le sait, hein, puis les personnes dans la salle d'audience le savent, etc. Donc les gens étaient déjà familiers avec tout ça parce que les juges ne se déplaçaient pas forcément dans le Nord pour aller faire les audiences, et les audiences se faisaient par vidéoconférence. Donc dans le Nord et là, ils avaient déjà l'habitude. Donc il y a déjà ça, cette habitude-là, cette réflexion est déjà amorcée. Et bon, vous pouvez me traiter de naïve, peut-être d'optimiste, mais je pense que ça, c'est amorcé, cette prise de conscience, elle est en train d'arriver. Et par la formation et par la réflexion, notamment qui se fait au niveau du Québec, ça se fait au Canada, ça se fait dans d'autres pays, en Australie, ça se fait en Nouvelle-Zélande, ça se fait chez les Samis aussi. On va arriver à développer, je pense, je m'inclus très, très modestement, mais je pense que les premiers peuples vont arriver à développer des outils qui vont permettre de réaffirmer, puis c'est un processus, hein, parce qu'encore là on parle de milliards de données, mais de réaffirmer un peu plus une souveraineté sur ces données-là, puis ça va se construire morceau par morceau. Mais il y a du potentiel, définitivement.
Donc, Karine Gentelet, vous êtes optimiste hein, en terminant.
Oui, il n'y a rien d'autre qui me prête de naïf, mais je préfère dire optimiste.
Ben, Karine Gentelet, professeure agréée, département des sciences sociales, directrice scientifique au Sierra UCO, donc Kitchimiguetch, Oléoné, pour votre participation aujourd'hui à l'émission. C'était très instructif. J'imagine que c'est tout un champ d'études qui est encore à définir encore.
Exactement. On est vraiment au début et c'est ça qui est, comme en tant que chercheur, hein, c'est ça qui est assez intéressant de voir ce champ se déployer et un peu passer d'un univers extrêmement informatique et très avec des expertises en génie informatique, tranquillement et statistique, tranquillement immigrer vers les sciences sociales, tout ce qui est juridique. C'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup pour l'invitation en tous les cas.
Merci beaucoup, c'était très intéressant et certainement ça amène à la réflexion. Merci Karine Gentelet.
Merci.
Au revoir.